Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire François Thierry, trafic d'État. Depuis 2010, de François Hollande à Nicolas Sarkozy, la tolérance zéro face au trafic des stupéfiants en France est aussi devenue une croisade médiatique. Un président et un ministre qui posent devant des pains de cocaïne et des ballots de résine de cannabis, fraîchement saisis dans les locaux de la douane ou de la police judiciaire, genre, voyez comme on est efficace, tournent en boucle. Voilà pour la com. Mais en octobre 2015, la réputation de l'OCTRIS, l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants, s'écaille. Son patron, le grand flic François Thierry, est soupçonné d'avoir laissé entrer dans l'Hexagone plusieurs dizaines de tonnes de cannabis, avec la complicité de l'un de ses plus gros trafiquants européens recruté par ses soins, le baron du shit Sofiane Ambly. L'accusation fait mal. Pendant des années, le plus gros importateur de cannabis en France aurait donc été l'État lui-même. Avec ce scandale, c'est toute la stratégie des stupes en France et ses méthodes parfois opaques qui sont remises en cause et surtout mises au jour. Notre invité aujourd'hui, Emmanuel Fonsten, journaliste à Libération, auteur du livre intitulé « Trafic d'État » qui a révélé justement l'ampleur de ce scandale. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Constance Villanova, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Octobre 2015, fin de journée automnale sur le boulevard Exelmans, dans le 16e arrondissement de Paris. Depuis plusieurs heures, une vingtaine d'agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, la DNRD, sont en planque.
Luc, à gros con.
Abrec Merco, immatriculé en 91. Quête Lascar à bord.
Ça vient de rentrer sur la zone, ça arrive sur vous.
Attention à tous, la BM bouge.
Dans leur viseur, trois camionnettes blanches de location suspecte, garées près d'Interplat. Les véhicules sont chargés, les pneus bien à plat. Personne à l'horizon. C'est là que la douane décide d'intervenir. Derrière les portes des fourgonnettes, des valises de cannabis par dizaines, une quantité gigantesque de drogue en plein Paris, une saisie record, 7 tonnes 1 de résine. Le soir de la découverte, le parquet de Paris saisit tout naturellement l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Ce service spécial de la Direction centrale de la police judiciaire est dirigé depuis 6 ans par le charismatique François Thierry. Ce grand policier s'est fait connaître pour son parcours sans faute et son incroyable palmarès de saisie. Bref, le patron des stupes règne en maître. Dès le lendemain, le 18 octobre, le président Hollande fait lui-même le déplacement au siège de la DNRD à Ivry-sur-Seine. Il vient saluer cette intervention hors norme. Le chef de l'État compte bien prouver que sa politique anti-drogue fonctionne.
Dans l'actualité également, cette saisie assez incroyable de cannabis hier soir en plein Paris dans 3 véhicules garés dans le 16e arrondissement. Plus de 7 tonnes, un record pour les douanes depuis 10 ans.
La drogue était emballée dans ces paquets en toile. À l'intérieur, des blocs de résine de cannabis par dizaines. Plus de 7 tonnes au total, il y en aurait pour 15 millions d'euros. Cet après-midi, le président de la République, François Hollande, a profité de cette saisie record pour pointer du doigt des réseaux visiblement très organisés.
Derrière ces valises retrouvées, représentant 7 tonnes de marchandises, ce sont des organisations criminelles.
Et quelques jours après ces louanges chantées par le chef de l'État, le parquet de Paris découvre, grâce à une facture et des traces d'ADN, que le propriétaire de la marchandise trouvée dans les camionnettes est un dénommé Sofiane Ambly. Il se trouve que ce baron du shit en France est aussi l'informateur de François Thierry, le chef des stupes. Alors, la justice s'interroge. Est-il mêlé à la plus grosse saisie de résine de cannabis dans Paris intramuros? Le 21 octobre, l'OCTRIS est saisie de l'enquête au profit de la brigade des stupéfiants de Paris, co-saisie avec la section de recherche de la gendarmerie de Paris. François Thierry, lui, est muté à la sous-direction antiterroriste de la capitale. Dans les bâtiments de l'OCTRIS à Nanterre, en région parisienne, son équipe dénonce une cabale. Après avoir tenté de bloquer l'accès aux juges d'instruction censés perquisitionner leurs locaux, 70 policiers déposent leurs armes pour soutenir leur ancien patron. L'ambiance est électrique, le scandale devient une affaire d'État. Mais pour mieux comprendre les subtilités du pacte tissé entre Thierry et le baron de la CAM, Sofiane Ambly, il faut d'abord commencer par tirer leur portrait. François Thierry a le verbe haut, les yeux clairs, une belle gueule et surtout une ambition dévorante. Sorti de l'école de police en 1994, il travaille d'abord à la PJ de Nantes avant de rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il fait ses armes sur cette plaque tournante du trafic de cocaïne dans les Caraïbes et développe une certaine appétence pour les affaires de stup. En 2006, il est nommé à la tête de l'OPACC, Service interministériel d'assistance technique, le SIAT, chargé de la formation des agents infiltrés. C'est cette instance qui gère le très secret bureau central des sources, le BCS. Née en 2004, elle a pour mission de consigner tous les indices de la police française dans un fichier informatique. La création du BCS est le résultat d'une opération de grand nettoyage entre la police et ses informateurs, ou tontons dans le jargon. Désormais, un contrôle hiérarchique pointilleux s'applique pour eux. Plus question en effet de négocier en duo et en secret, non, chacun indique à sa carte d'identité au bureau central des sources. Quand il est nommé à la tête des STUP, François Thierry est censé être l'héritier de cette opération de transparence. Depuis son bureau à Nanterre, l'omnipotent numéro 1 se lance alors dans une politique du chiffre. En pleine expansion du marché de la drogue en France, son image plaît. Les multiples saisies qu'il accumule, elles aussi, bien sûr. Et donc le voici en 2015, interviewé par le journaliste Yves Calvi sur le plateau de C'est dans l'air, sur France 5.
La nocivité du produit pour nous, policiers, est contingente. On ne va pas se bagarrer sur celui-là est plus nocif que l'autre. Oui. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est lequel est aux mains de la criminalité organisée et lequel conduit à la désagrégation du corps social par rapport à celui d'à côté. La lutte contre les trafics, elle doit se faire à tous les niveaux. C'est pas une fausse réponse. Bah, c'est pour vous dire que chacun est fait.
Là, je vais vous dire
que
vous êtes prêt à faire de la politique.
Non, je suis pas prêt. Enfin, peut-être. Mais c'est pas du tout l'objet. C'est pas du tout l'objet.
Pour multiplier les saisies, François Thierry sait s'entourer des meilleurs informateurs. Et il y en a un dans son carnet d'adresses qui connaît le trafic de drogue comme sa poche. Un certain Sofiane Ambly. Le visage rond, les yeux perçants, ce trafiquant fait ses armes dans le quartier de Bortzwiller, à Mulhouse. À la fin des années 90, du haut de ses 20 ans, il est déjà considéré comme l'un des maîtres du trafic de cannabis entre le Maroc, l'Espagne et la France. De sa vie, on sait peu de choses, au point que le gamin de l'Est a été rebaptisé la Chimère, tant il échappe à ceux qui veulent le cerner. C'est en Espagne, sur la Costa del Sol, qu'Ambly flambe. Avec la ville de Marbella comme capitale, cette plaque tournante mondiale de la drogue fait cohabiter dans un monde interlope et clinquant, agents des stupes, indiqués narcotrafiquants, tout cela sur fond de corruption, bien sûr. À l'aube des années 2000, le petit port de pêche espagnol est devenu le temple d'une nouvelle génération de voyous, roi de la résine de cannabis, qui roule en Porsche Cayenne, un avant-goût du bagne, puisque c'est ici précisément que Sofiane Ambly est arrêté en février 2002, puis condamné à 5 ans de prison. Extradé en France, même derrière les barreaux, il ne s'arrête pas. Sur une écoute, on l'entend négocier la vente de 50 caisses à un intermédiaire. Dans la foulée, après la disparition dans la nature d'une tonne et demie de résine de cannabis, il menace un complice de lui trouer les genoux avec une perceuse. Sans anesthésie, ça va sans dire. Pour avoir continué de gérer son trafic depuis sa cellule, Sofiane Ambly est condamné à 18 ans de prison. En octobre 2002, les images de son arrivée sous escorte policière, visage caché sous un pull pour sa mise en examen, sont les seules jamais enregistrées de lui. «
10h25 ce matin, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Sofiane Ambly arrive sous bonne escorte sur les quelques mètres qui le séparent de la maison d'arrêt au bureau du juge d'instruction. En quelques instants, il va se voir signifier sa mise en examen pour trafic de drogue. En présence de ses deux nouveaux avocats, maître Thierry Moser et maître Jean-Louis Pelletier, il va pourtant contester les faits qui lui sont reprochés par Jacques Bourguignon, le juge d'instruction. Quelques minutes plus tard, et comme le veut la procédure, le juge des libertés le placera en détention, clôturant ainsi le premier chapitre de cette enquête à multiples tiroirs.
Quelques mois plus tard, Ambly parvient à s'évader lors d'un transfert de la prison de Metz vers un hôpital. Il profite d'une radiographie du poignet pour s'échapper à moto avec un complice armé d'un pistolet factice en braquant trois surveillants pénitentiaires. Retour vers la Costa del Sol. Après avoir échappé à plusieurs coups de filet, il est interpellé en 2009 dans la région de Marbella, à Puerto Banús. En garde à vue, il essaie d'effacer ses empreintes digitales en se frottant les doigts au barreau de sa cellule. Et c'est pendant cette détention en Espagne que François Thierry le rencontre. Ambly, à ce moment-là, est en mauvaise position. Il risque gros. Alors, le futur chef des stupes en profite pour le recruter. Ambly sera son informateur et il lui permettra de comprendre en détail les dessous des réseaux de cannabis en France. Le trafiquant gagne ainsi une remise de peine et le droit de continuer à gérer son empire en prison pour que ses intermédiaires ne se doutent pas de son pacte avec le diable, avec le flic. L'alliance Ambly-Thierry est scellée. D'ailleurs, même s'il est derrière les barreaux, les revendeurs et trafiquants en herbe, si je puis dire, se bousculent pour travailler avec la chimère, comme en témoigne l'un de ses anciens employés dans le livre « Trafic d'État » d'Emmanuel Van Steen. Le journaliste lui demande comment expliquer le succès d'Ambly.
C'était un peu tout. Ces prix qui défiaient toute concurrence. Les quantités qu'il pouvait transporter et faire livrer. Tout le monde voulait bosser avec lui. Il n'était pas rare que des Marseillais viennent chercher directement le produit à Paris plutôt que de descendre à la source en Espagne. Sofiane prétendait qu'il arriverait à lui seul à faire chuter le prix de la résine de cannabis en France et qu'il serait le numéro 1 sur le marché. Il se voyait comme le boss. C'était quelqu'un de très sûr de lui, très carré, très précis, qui maîtrisait parfaitement la situation et ne craignait personne.
L'alliance Thierry Ambly se tisse dans un contexte bien particulier. Fin 2009, naît à Nanterre, en secret, une nouvelle stratégie en matière de stupes. On les appelle les opérations Myrmidon, référence à la mythologie grecque et à ce peuple guerrier qui, uni, est capable de renverser et de gagner une bataille. Quelques semaines, en effet, après le recrutement en Espagne de l'informateur Ambly, François Thierry de Loctris, Frédéric Vaux et Bernard Petit, deux pontes de la direction centrale de la police judiciaire, se donnent rendez-vous pour poser les bases de cette nouvelle stratégie lors d'un déjeuner à Paris. L'idée des opérations Myrmidon, infiltrer au plus près les réseaux en détectant en amont les flux de marchandises et en travaillant précisément sur l'aire de la Costa del Sol, plaque tournante des stupéfiants. Le tout en collaboration avec des indiques bien positionnés dans le réseau. Au même moment, et pour faciliter la mise en place de ce cadre judiciaire inédit, un accord bilatéral historique est signé à Madrid entre le ministre de l'Intérieur français, Brice Hortefeux, et son homologue espagnol, Alfredo Pérez Rubalcaba. Il entérine ainsi la création des unités permanentes de renseignement UPR. Désormais, des équipes de police françaises peuvent travailler sur le sol espagnol en dehors de tout cadre judiciaire. Un modèle tiré de la lutte contre l'ETA, le groupe séparatiste basque, quelques années plus tôt à l'époque. La police espagnole, en effet, était autorisée à agir en France sans autorisation préalable pour débusquer les membres de l'organisation. Donnant-donnant. Opération Myrmidon d'un côté, accord avec l'Espagne de l'autre. Les aspirations de Thierry Petit et celles du duo ultra-sécuritaire Nicolas Sarkozy-Brice Hortefeux coïncident. Ce tandem au pouvoir compte faire de l'Octrice une DEA à la française, les stupes américains, modèle du genre. Leur politique anti-drogue passe par les images, le chiffre et de nombreuses saisies. François Thierry multiplie les interventions médiatiques devant des quantités impressionnantes de drogue interceptées.
C'est la plus grosse saisie de résine de cannabis destinée au marché français jamais réalisée. La police a intercepté hier à Gonesse, dans le Val-d'Oise, 7 tonnes de drogue et interpellé 7 personnes, dont 2 Français. Le tout à l'issue de plusieurs mois d'enquête commune avec le Maroc et l'Espagne.
Je suis venu ici donc pour féliciter très vivement et encourager dans leur travail. Les enquêteurs de l'Octrice. L'Octrice a saisi sur l'autoroute A4 7 tonnes de cannabis.
Et pour chiffrer et mettre en place ces opérations Myrmidon, il faut passer par une méthode bien particulière, connue chez les stupes, méthode légale, et qui existe depuis 1991, celle des livraisons surveillées, ou LS. Toujours cette manie des acronymes dans la police. Cette stratégie d'enquête consiste à faire délibérément entrer de la drogue sur le territoire français pour remonter l'ensemble de la chaîne. Le but étant de suivre la marchandise de son point de départ vers son point d'arrivée et faire croire aux trafiquants qu'ils sont en train de passer librement des cargaisons pour mieux les piéger et démanteler toutes les ramifications de leur réseau. Mais la livraison surveillée doit respecter un cadre judiciaire. Évidemment, un parquet doit être prévenu que cette opération est en cours et surtout, la drogue doit être sous surveillance permanente des enquêteurs.
Notre PC spécial GoFast. Ici sont répertoriées toutes les routes, ainsi que les sorties, les aires de stationnement et les stations-service susceptibles d'être utilisées par les GoFast. C'est d'ici que mon équipe te suivra au GPS et assurera la liaison avec les équipes françaises, espagnoles et marocaines qui te fileront le train sur le terrain.
Si elle est controversée par certains, la LS permet, selon d'autres, de ne pas s'attaquer simplement aux petits revendeurs visibles, mais bien de remonter à la source d'un trafic, un vrai, un gros. Dans le cadre des opérations Myrmidon, et grâce à son informateur de choix, Sofiane Ambly, l'Octrice et François Thierry privilégient ce mode d'enquête. En 2010, les stupes réalisent ainsi plusieurs saisies historiques. Mais, selon ses détracteurs, avec cette méthode pas assez encadrée, les stupes contribueraient eux-mêmes à importer la drogue qu'ils saisissent, d'autant que souvent, une partie de la cargaison ne serait pas interceptée et disparaîtrait dans la nature. C'est ce qu'explique cet ancien de la PJ, un journaliste d'Envoyé spécial, dans l'enquête diffusée en 2018 sur France 2, intitulée « Scandale chez les stupes ».
Au fur et à mesure, on franchit les limites, on franchit, ils ont continué à franchir les limites, et puis aujourd'hui, la quantité, pour eux, ils en font abstraction.
Une lente dérive qui aurait mené l'Octrice, censée lutter contre les stupes, à en favoriser l'importation. Pour le plus grand profit des informateurs, les tontons dans le jargon policier.
Alors après, j'ai eu la proportion, justement, c'est là que ça pose problème. C'est que tu dis, bon, d'un côté, il y a 15 tonnes qui servent, par exemple, aux tontons, et puis de l'autre côté, l'Octrice a fait qu'une tonne de saisie.
Ah oui, c'est ça qui peut être choquant.
Oui.
C'est qu'on imagine que lundi, qui va permettre de faire saisir plus de drogue que ce qui passe. Or là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse.
Ben c'est l'inverse.
Un témoignage va cependant révéler les dérives des stupes et du duo Ambly-Thierry. C'est celui d'Hubert Ravoine. Ce pur produit du sud de la France, jamais sans sa cigarette à la bouche, regard bleu-vert et l'air très sûr de lui, est inscrit au bureau central des sources. Il travaille d'abord en tant qu'informateur auprès de la PJ de Nice et l'office des stupes, et pour François Thierry, en tant qu'officier traitant, à partir de 2008. En tant qu'infiltré, il réalise plusieurs opérations à l'étranger pour les stupes. Il est entre autres missionné pour se rapprocher d'une banquière mexicaine qui travaille pour le cartel de Sinaloa, une proche du baron El Chapo. Une mission pour laquelle l'Octrice lui fournit même un faux passeport. Qui est-il, cet homme? Il affirme voir François Thierry une à deux fois par semaine, explique qu'ils vont chasser ensemble et que le patron des stupes l'a même affublé d'un surnom, Canard. Mais une mission sur la Costa del Sol en Espagne en 2012 lui met la puce à l'oreille et dégrade sa relation avec Thierry. En commence au mois de mars 2012, Avoine descend à Estepona pour 3 semaines. On lui explique qu'il doit garder une villa. Il retrouve François Thierry sur le port, change sa voiture contre une vieille Opel Corsa bleue. Il s'agirait d'une livraison surveillée. Une fameuse LS, un stock de résine de cannabis qui devrait arriver sur la plage d'Estepona. Les stupes et leurs infiltrés doivent ensuite suivre la remontée de la cargaison vers la France par le biais de GoFast. Vous avez ces cortèges de voitures qui remontent de la drogue à une vitesse folle sur la route. La villa, c'est le lieu de stockage. Hubert Avoine l'affirme, 19 tonnes y transitent en 3 semaines. Cette étrange mission, il la raconte au micro du journaliste Jacques Monin pour Secret d'Info sur France Inter, à l'occasion de la sortie de son livre coécrit avec Emmanuel Fansten, publié en 2018, intitulé « L'infiltré ».
Il y a des bateaux qui arrivent du Maroc, de la drogue, qu'on appelle couramment les valises marocaines, qui sont déchargées. Et ils sont entreposés dans le garage.
Vous ne saviez pas pourquoi vous étiez là-bas en voyant
passer toute cette drogue ? Mais vous pouvez le faire dans le cadre d'une opération absolument normale. C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir un vrai réseau. Et à la fin, on peut arrêter tout le monde. Quand vous êtes là, que vous voyez déjà que ce sont des policiers français, mais ça peut être également légitime s'ils ont été infiltrés dans cette opération, ce qui ne semble pas le cas.
D'accord, donc vous pensiez qu'à l'arrivée, on arrêterait tout le monde et vous étiez là pour ça. Et vous vous rendez compte qu'on n'en arrête qu'une partie et qu'on en laisse passer une autre.
Ben, vous savez, Internet a un grand avantage. C'est que même isolé dans cette maison, voilà, vous regardez des voitures qui ont été chargées, vous regardez des véhicules qui ont été chargés et vous voyez qu'ils ne sont pas tous arrêtés. Donc vous dites, bon, ils ont dû laisser passer pour arrêter plus loin des réseaux plus amples. Mais manifestement, ils n'ont pas dû retrouver les réseaux.
19 tonnes de résine de cannabis, dont seule une partie aurait été saisie. À la fin de cette mission, en mars 2012, à la gare Montparnasse, à Paris, Avoine reçoit 32 000 euros en liquide, remis par François Thierry lui-même. Oui, des petites coupures de 20 euros surtout, qu'il décrit comme usagées. Avoine s'interroge, mais d'où vient l'argent ? Du ministère de l'Intérieur ? Côté bureau de l'Octrice à Nanterre, François Thierry poursuit son ascension, car les saisies se multiplient. Le duo Ambly-Kerry fait un carton. Le 2 avril 2012, le patron des stupes extrait son informateur de sa cellule de la prison de Nancy. Direction un hôtel Mercure, où Ambly passe 3 jours sous surveillance pour pouvoir téléphoner en Espagne et au Maroc dans le cadre d'une opération Myrmidon. Une fausse garde à vue, en vérité, couverte par le parquet de Paris. La chimère profite alors de son statut d'informateur pour inonder l'hexagone de shit. La douane estime son trafic à plusieurs tonnes par semaine, le tout derrière les barreaux. Sa couverture est implacable. S'il arrête le trafic, il ne peut plus aider les stupes pour les livraisons surveillées. Alors on laisse faire. Et puis, Ambly doit rester crédible et continuer à faire entrer de la drogue non saisie par la police en France pour ne pas inquiéter son réseau. En parallèle, le plus gros trafiquant de shit de France négocie sa sortie. Et ça marche. En juin 2012, François Thierry adresse une demande de remise de peine exceptionnelle pour son informateur auprès du procureur de la République de Nancy.
Sa collaboration est extrêmement précieuse pour l'OCRTIS depuis octobre 2009, dans la mesure où il s'investit pleinement dans l'identification des principales organisations criminelles violentes, se livrant au trafic de cannabis et de cocaïne en France. Le nombre des affaires réalisées grâce à lui témoigne de son efficacité et de son opiniâtreté dans ce domaine, l'intéressé n'ayant jamais tenté de manipuler ses agents traitants ou de détourner cette collaboration dans un but personnel.
Fin 2014, le caïd de Mulhouse, devenu baron de la drogue, est libéré sous contrôle judiciaire. Il se marie dans un palace parisien. Il vit entre Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, l'île Maurice et Paris, dans un immense appartement boulevard Exelmans. Ambly dépense jusqu'à 150 000 euros par jour, parfois en quelques minutes, dans des boutiques de luxe, comme lors de cet après-midi shopping dans la capitale, chez Dolce & Gabbana. Mais d'où vient la fortune de cet ex-dollar, si ce n'est des réseaux de la drogue ? De son côté, Hubert Avoine, l'infiltré, qui a vu transiter 19 tonnes de résine de cannabis à Estepona, ne décolère pas. Il n'a pas été payé pour l'une de ses missions en Amérique du Sud. Et puis, l'ex-canard de Thierry a décidé de dénoncer des méthodes et des dérives. Le 1er octobre 2015, Hubert Avoine écrit à François Molins, procureur de la République de Paris, pour dénoncer les méthodes de l'octrice. Le témoignage d'Hubert Avoine est tellement compromettant qu'il provoque l'ouverture d'une enquête préliminaire au parquet de Paris. Avoine est entendu par l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, la police des polices, les boeufs carottes pour les intimes. Au même moment, en octobre 2015, deux des plus hauts cadres de l'octrice se rendent spécialement au Maroc et plus précisément à Tanger pour assurer la liaison avec les autorités locales dans le cadre d'une livraison surveillée de résine de cannabis. Un ferry a quitté le port de Tanger, direction Barcelone, en Espagne. Accueilli par un semi-remorque, la cargaison fait la route vers la France avec, à son bord, des plats tagines sous lesquels se dissimule une grosse quantité de drogue. 10 tonnes, qui appartiennent à Sofiane Ambly. Dans un entrepôt à Lyon, une équipe d'une dizaine d'hommes accueille la cargaison. Des trafiquants de toute la France viennent acheter ce cannabis. Une partie est déplacée dans un entrepôt à Aulnay-sous-Bois, dans le 93. Les policiers ont pour mission de suivre la marchandise le plus loin possible sur les lieux de destination. Mais la livraison surveillée est levée quand la drogue est dispersée dans des camions qui vont quadriller l'hexagone. Le 14 octobre, la douane intercepte 2 tonnes sur une aire d'autoroute à Nantes. Inquiet que les douaniers remontent au stock d'Aulnay, Ambly rapatrie une partie de la cargaison chez lui, boulevard Exelmans, sans prévenir ses contacts de la police et sans prévenir François Thierry, son employeur. 3 camionnettes blanches contenant 7 tonnes se garent, boulevard Exelmans, chargées à bloc. Nous sommes le 17 octobre 2015, c'est l'épisode dont je vous parlais en début de récit, et c'est là que la douane effectue alors la plus grosse saisie de cannabis dans la capitale, 7 tonnes 1.
C'est un témoignage anonyme qui a permis d'alerter les douaniers sur ces trois camionnettes. Trois camionnettes garées sur le boulevard Excelmans, dans le très chic et très tranquille 16e arrondissement. À l'intérieur, des dizaines de valises marocaines, ces paquets de résine d'une trentaine de kilos, entourés de toiles de jute et d'emballages plastiques. La saisie se fait en pleine nuit, sans interpellation, mais des relevés d'empreintes et d'ADN ont été effectués dans les véhicules des fourgonnettes louées en Île-de-France. La drogue qu'elle contenait provient du Maroc et devait alimenter le marché hexagonal. Ce qu'il y a de nouveau dans cette affaire, soulignent les douanes, c'est le mode de stockage. Une cargaison d'une valeur de 15 à 20 millions d'euros, laissée au bord d'un boulevard fréquenté de la capitale.
Les empreintes d'Ambly et son statut d'informateur auprès de l'octrice éveillent les soupçons. Thierry, lui, est exfiltré par un autre service pour être entendu en décembre 2015 par la police des polices. Car une information les titille. Trois jours après la saisie, le 20 octobre, le chef des stupes a retrouvé le trafiquant porte-maillot à Paris pour lui redonner le téléphone crypté qui leur permettait d'échanger alors qu'Ambly était visé depuis quelques heures par un mandat de recherche. Une rencontre lourde de questionnements. En cavale, depuis 4 mois, Sofiane Ambly est finalement interpellé à l'aéroport de Zaventem, en Belgique. Il est auditionné en mai et il n'en démord pas. Ce qu'il a fait, c'était pour répondre à des commandes pour l'État. Il est quand même incarcéré. Mais Hubert Avoine ne lâche pas le morceau. Lui veut dénoncer les méthodes de l'octrice. Alors, il écrit à Emmanuel Forsten, le journaliste police-justice de Libération, et le rencontre. Le 23 mai 2016, Libé titre « Stup, un trafic d'État ». C'est une bombe.
Libération révèle le rôle central de François Thierry, ancien numéro 1 de la lutte anti-drogue, dans l'importation en France de plusieurs dizaines de tonnes de cannabis en lien avec un des plus gros trafiquants européens. Un système d'une ampleur inédite qui s'apparente à un trafic d'État. C'est un scandale qui risque de provoquer une déflagration au sommet de la police judiciaire. L'ancien patron de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, François Thierry, est soupçonné d'avoir laissé entrer en France plusieurs dizaines de tonnes de cannabis au cours des dernières années, avec la complicité d'un des plus gros trafiquants européens recruté par ses soins. Que savaient ces derniers des méthodes de François Thierry ? Ont-ils cautionné ce trafic d'État ? De nouveaux éléments et un témoignage accablant, recueilli par Libération, dévoilent l'ampleur de ce système dont l'existence pourrait mettre en péril des dizaines de procédures judiciaires.
Le 24 août 2017, François Thierry répond aux questions des deux juges d'instruction chargés de l'enquête sur la livraison du boulevard Excelmans. Sous une chaleur écrasante, dans un petit bureau étouffant du 36 quai des Orfèvres, il est auditionné pendant 9 heures. À 23h42, François Thierry est mis en examen pour complicité de trafic international de stupéfiants, accusé d'avoir laissé entre les mains de Sofiane Ambly et sous son seul contrôle une quantité très importante de résine de cannabis, plus de 20 tonnes compte tenu des éléments du dossier.
France Inter, 8h05. Quel est le comble pour un ancien chef de l'office chargé de la lutte anti-drogue ?
Bien être mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. François Thierry est soupçonné d'avoir favorisé l'importation de plusieurs dizaines de tonnes de drogue sur le territoire pour faire tomber des réseaux criminels et obtenir des saisies spectaculaires. Des accusations révoltantes selon l'avocat de François Thierry, maître Francis Pinet.
Aujourd'hui, les trafiquants de drogue peuvent se réjouir. Parce qu'on vient de condamner des méthodes avec une formidable hypocrisie. Ce qui est certain, c'est que c'est un coup d'arrêt qui est donné à la lutte contre le trafic de stupéfiants. Je crois pouvoir dire qu'il y a un sentiment d'écœurement. Quand vous avez consacré des années de votre vie à mener la lutte contre les trafics en drogue par des manières inédites de procéder à des résultats exceptionnels, ce que personne n'a jamais contesté, François Thierry est un grand flic.
François Thierry est sanctionné le 10 octobre 2017. La procureure générale de Paris lui a retiré son habilitation d'officier de police judiciaire. Le 22 octobre 2021, soit il y a un mois, un patient gravement blessé à l'arme blanche est admis en soins intensifs à l'hôpital de Tanger. Il porte de faux papiers allemands. La police marocaine identifie, figurez-vous, Sofiane Ambly.
Alors, direction la prison pour la chimère, défigurée d'une balafre de 20 cm au milieu de la joue. Hubert Avoine, l'ex-infiltré devenu lanceur d'alerte, s'est éteint en octobre 2018 des suites d'un cancer. Il n'aura pas pu voir, en mars 2019, le changement de texte qui encadre les livraisons surveillées qu'il décriait tant. En janvier 2020, l'actrice disparaît, devient l'OFAST, l'Office anti-stupéfiant. Une refonte pour rebondir après le scandale. Le ministère de la Justice bataille et obtient que le numéro 2 de ce service de la PJ soit un magistrat. Flics et justice devront désormais travailler main dans la main. Fini les coups tordus.
Il est là, large, barge, près de la berge, narge, a quitté la cage pour le marivaudage, le marécage, et derrière lui, loin, son acte le plus sage est d'avoir tiré sur le parrain. Dans son quartier, le général Noriega est aussi respecté que Jean Bedel, Bocassa, Lino Brown, Escobar, les blocs, notes de dollars, sont aussi vénérés que Jésus-Christ le soir. En pleine crise, à deux vols au casino, secrètement son rêve est ne plus gratter des bancos, son petit lac saint et signe de malchance. Les balances sont des caméras de surveillance. Fini les costards à la Marlon Brando. La démarche calque est sur De Niro de l'Actor Studio. Heureusement que la santé fleurit à Fresnes. Qui rêve de politique pour être un gangster moderne.
Gangster moderne, c'est juste ajouter quelques zéros. Gangster moderne.
Jadis c'était Alfonso Capone Nitti, aujourd'hui les affranchis roulent en berline à Paris. Oui. Laisse dans ce business, Elliot Ness et de mèche, Satan dirige la messe, donc personne ne se confesse. Allez. Il a rêvé de fumer de la taille en toute impunité, mais c'est que seuls les députés auront l'immunité. Que les plus grands gangsters font du marketing quand ils dansent des jeans en CDI dans un pressing. Ils rêvent action, gilet pare-balles, paranoïa. Soit même le 13e mois veut s'installer dans la familia pour reposer son père, retraité et plein de peine. Il veut faire de la politique pour être un gangster moderne.
Les gangsters modernes sont les gens d'aujourd'hui. Ils font les lois, ils font les lois. Ils font les gangsters modernes. C'est l'idéal dans les HLM. Le nouveau rêve, c'est un nouvel Éden.
Un jour, il rencontre la femme de sa vie. Oui. Lui parle de Scarface et du cartel de Cali. Non. Ce monde est tien, bien, c'est toi qui le fais. Mais de l'abstrait au concret, je veux pas être ta Florence Ray. Elle lui propose une balade loin des pluies acides. Cheval en Camargue, brasse et repos placide. Un gosse passe sur la bouche, il a du blélina. Ado sort son flingue et tire sur le parrain de la mafia. Le poster vol lui tombe sur le sol. L'élu de haut vol les emporte et paréole. J'ai l'esprit qui dit qu'il y la presse quotidienne, constate que les politiques sont pleines de gangsters modernes.
France Inter, affaires sensibles.
Aujourd'hui, drogue, trafic d'État, dont nous allons parler avec notre invité Emmanuel Forsten. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été cité deux fois dans le récit, et pour cause, d'abord parce que vous êtes journaliste à Libération, et non, d'abord parce que vous avez écrit avec Hubert Avoine le livre L'Infiltré en 2017. Là, un autre livre, toujours sur l'affaire Thierry, s'appelle Trafic d'État, enquête sur les dérives de la lutte anti-drogue, et donc vous êtes journaliste à Libération. Le sentiment que j'ai en racontant cette histoire, c'est la question de l'acceptabilité de ce qu'on appelle les indics. Alors, depuis que la police existe, depuis la nuit des temps, la police emploie cette méthode des indics, hein, c'est assez normal. Mais jusqu'où ? Et j'ai l'impression que cette affaire, elle pose vraiment la question, l'acceptabilité, jusqu'où ?
Bien sûr, jusqu'où, c'est absolument toute la question que soulève cette affaire. Les indics, les informateurs, les tontons, comme on dit, existent depuis toujours dans la police. C'est même un élément clé dans les enquêtes de police judiciaire. Généralement, il n'y a pas d'affaire sans informateur, sans information. Ça va de soi. Ce que montre cette affaire, c'est effectivement le dévoiement total du système des informateurs, et notamment le fait qu'on leur a fait jouer un rôle actif, notamment à Sofiane Ambly, mais également à Hubert Avoine. Puisqu'on parle d'infiltré, en l'occurrence, Hubert Avoine, formellement, il était informateur, inscrit au bureau central des sources, comme l'a rappelé votre récit, mais on lui a fait jouer un rôle actif, de la même manière que Sofiane Ambly ne se contentait pas de livrer des informations à ces officiers traitants. Ils livraient aussi de la drogue et en très grande quantité. Donc la bascule, elle est là, si vous voulez. Les informateurs doivent donner des informations, ils doivent pas eux-mêmes participer directement au trafic.
Alors, on en a parlé dans le récit, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir sur votre rencontre avec Hubert Avoine? Parce que c'est quand même l'ouverture de l'enquête pour vous. C'est lui qui vous ouvre la voie.
Tout à fait. Oui. Hubert Avoine, je l'ai rencontré, il m'a pas écrit, il m'a contacté, disons, en avril 2016. En réalité, quelques mois seulement après la saisie dont vous avez fait état, la saisie d'Excelmance, la fameuse saisie d'octobre 2015, saisie record, et qui a finalement dévoilé à la fois l'existence de Sofiane Ambly et les méthodes de l'Octrice. Et il est venu me raconter un certain nombre de choses absolument sidérantes, et notamment le fait qu'il avait été mandaté quatre ans plus tôt, en 2012, pour garder une villa à Estepona.
Oui, on l'a raconté.
Vous avez raconté ça. Et à ce moment-là, il m'a expliqué, lui, avoir vu des policiers chargés et déchargés eux-mêmes les camions et donc eux-mêmes prendre une part active au trafic. Et ce qui m'a troublé dans son récit, c'est précisément que ça permettait de donner une autre perspective à la saisie d'Excelmance, un autre regard et finalement d'élargir le scandale à quelque chose de systémique.
Mais qu'est-ce qu'il avait à gagner, Avoine, de dire ça? Après tout, il fait partie du système. Enfin, il en faisait partie, finalement.
C'est toute l'ambiguïté, si vous voulez. D'ailleurs, quand il y a des sources qui viennent vous raconter des choses aussi invraisemblables...
Oui, on doit être méfiant, j'imagine.
On commence, bien sûr, par se méfier. Et d'ailleurs, les sources ont toujours un intérêt, en réalité, à vous parler. Alors, on a parfois des danseurs d'alerte qui veulent seulement dévoiler des scandales, mais très souvent, y compris les informateurs de la police, veulent gagner quelque chose. En tout cas, un intérêt, pas forcément financier. Ça peut être une vengeance, un ressentiment. Et en l'occurrence, Avoine ne s'en cachait pas. Il estimait qu'une de ses missions périlleuses en Afrique, en Amérique du Sud, ne lui avait pas été payée à sa juste mesure. Et il considérait qu'il avait été pris à son corps défendant d'une certaine manière dans une affaire totalement illégale en Espagne, dont il voulait dévoiler les coulisses.
D'accord, je comprends mieux. Lors de votre enquête, vous avez réussi à rencontrer, je crois, un ancien salarié de Sofiane Ambly. Hein, racontez-nous quel était son rôle, qu'est-ce qu'il vous apprend, quel genre de type ces personnes-là.
Alors effectivement, au-delà du cas Hubert Avoine, il fallait quand même, pour essayer de comprendre cette histoire, rencontrer un certain nombre de personnes très différentes qui participent plus ou moins directement au trafic et à la lutte contre le trafic, des magistrats, des avocats, des policiers, mais aussi des trafiquants. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'un d'entre eux, qui s'appelle Jamel, et qui était l'ancien bras droit de Sofiane Ambly. Il a d'abord un parcours intéressant, puisque c'est un ancien braqueur qui est reconverti d'une certaine manière dans le trafic de stupes. Donc ça raconte aussi quelque chose de l'évolution du trafic et de la criminalité, parce que les braquages rapportent aujourd'hui beaucoup moins que les stupes, et surtout sont beaucoup plus dangereux. Et Jamel, il permet d'ouvrir effectivement un monde très très important autour de Sofiane Ambly, et de comprendre notamment l'ampleur du trafic auquel se livre Ambly à l'époque, donc à la grande époque si j'ose dire, c'est-à-dire en gros entre 2010 et 2015. Il y a des notes de police et de gendarmerie à l'époque qui font état de plusieurs tonnes livrées chaque semaine par Ambly, et Jamel lui a pour rôle de conduire en réalité les camions, donc ils sillonnent la France pour livrer plusieurs centaines de kilos, voire plusieurs tonnes, un peu partout sur le territoire. Et donc ça démontre à quel point quel niveau d'impunité était Sofiane Ambly, et l'ampleur surtout de son trafic totalement colossal qu'il pouvait faire, évidemment, grâce à l'aide de ses officiers traitants, puisqu'on ne peut pas développer un tel trafic sans avoir les frontières ouvertes et sans avoir certaines protections qu'il avait évidemment en très haut lieu, en l'occurrence à l'office des stupes directement.
Et il avait, j'imagine, Ambly, une grosse part du marché.
Alors, Ambly...
Il n'est pas tout seul, quand même, ils sont plusieurs.
Bien sûr.
Il y a plusieurs réseaux.
Il y a évidemment plusieurs réseaux, mais c'était tout le paradoxe de cette histoire. Mm. C'est qu'on avait le sentiment que le but des policiers, c'était de faire tomber les réseaux concurrents, précisément. Et Ambly était dans une situation, à certains moments, quasi monopolistique. D'ailleurs, de l'aveu même d'un grand policier, il est responsable à lui seul de 40% des affaires réalisées par l'Octrice à cette période-là. Donc, bien évidemment, pour rester crédible dans le milieu, à chaque fois qu'une tonne passait, était saisi, il devait évidemment en passer d'autres.
Ah oui, sinon il était démasqué par les autres et qu'il faisait la peau. Quoi.
Absolument.
J'imagine. Bah, c'est un métier dangereux, que voulez-vous. Alors après, donc la drogue, elle arrive, mettons que ça passe, elle est dans des entrepôts, on a parlé de Daulnay-sous-Bois tout à l'heure, et donc c'est là que les revendeurs viennent faire leur marché, c'est ça?
Alors,
comment ça se passe après?
Alors, il y a plutôt, disons que Ambly, lui aussi, jouait le rôle de logisticien, donc il gérait notamment tout le transport. Mmh. Un entrepôt où sont stockés de très nombreuses tonnes, comme celui de Daulnay-sous-Bois dont vous avez parlé, a priori, les acheteurs ne viennent pas eux-mêmes se servir ici. En revanche, il y a des hommes d'Ombly, en l'occurrence Jamel par exemple, mais d'autres aussi, qui viennent prendre la drogue dans l'entrepôt et qui la livrent un peu partout.
Chez des grossistes, si j'ose dire.
Qui vont livrer
chez les particuliers, si j'ose dire.
Alors c'est les semi-grossistes, le grossiste on va dire que c'est Ombly. Mmh. Ensuite il y a des semi-grossistes qui vont dispatcher cette marchandise un peu partout sur le territoire. Mmh. Et la stratégie Myrmidon, on va peut-être y revenir, en tout cas mise en place par les policiers, consistait à suivre, à essayer en tout cas de suivre cette marchandise un peu partout en France.
On parle bien de résine de cannabis, on parle pas de la blanche là.
Alors en réalité dans le livre je parle des deux, c'est-à-dire qu'on parle principalement de résine de cannabis puisque Ombly avait ses contacts notamment au Maroc, mm-hmm. la plaque tournante évidemment la source de départ de la marchandise, mais il a été aussi impliqué dans d'autres affaires, notamment de cocaïne. Il a été informateur dans l'affaire de la plus grosse saisie de l'histoire en France métropolitaine, 1,3 tonne de cocaïne saisie en octobre 2013 à l'aéroport de Roissy. Mmh. Et on a découvert que Ombly avait également joué un rôle clé dans cette affaire-là.
Donc les trafiquants ne sont pas tous spécialisés cannabis d'un côté, cocaïne de l'autre, c'est
Ils
les deux au
de
principe.
De plus en plus multicartes, même D'accord. si au départ, effectivement, il y a des spécialisations.
On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Bruce Springsteen.
How many summers still remain? How many days are lost in vain? Who's cutting out these last remaining years? How many minutes do we have ahead? Wasted days. Our lives just fade away to more wasted days. How much sorrow is there left to climb? How many promises are worth the time? And who on earth is worth our time? Is there a heart here that I can call mine? Wasted days. Wasted days. We watch our lives.
Fonsten, l'opération la méthode Myrmidon, un mot parce que c'est intéressant quand même ça.
Bien sûr, c'est une stratégie centrale pour comprendre effectivement le système. C'est une stratégie qui a été mise en place à la fin de l'année 2009 et déployée à partir des années 2010. Et il faut d'abord comprendre que les stupes ont toujours été un peu le laboratoire des pratiques et des méthodes policières. Et les policiers ont toujours essayé, les policiers stupes ont toujours essayé d'innover, de trouver des nouvelles techniques. Et en l'occurrence, Myrmidon, ça partait du principe qu'au lieu finalement de saisir simplement et de courir après les tonnes, on allait essayer de suivre la drogue, de démanteler des filières, et au fond d'interpeller uniquement à l'arrivée les trafiquants. C'est une stratégie qui s'appuyait sur deux choses. D'abord sur Sofiane Ombly, donc l'informateur principal de François Thierry, mais aussi sur une technique que vous avez évoquée dans votre récit, qui est la technique des livraisons surveillées, DLS, qui permettent donc de laisser passer légalement de la drogue pour la saisir à l'arrivée. En théorie, c'est des méthodes qui doivent s'appuyer sur une enquête judiciaire. Mais là, la folie, si j'ose dire, la démesure de Myrmidon, c'est que François Thierry s'est totalement affranchi des enquêtes préalables. Et il y a eu simplement des alertes au parquet entrant. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune enquête judiciaire précédemment aux livraisons surveillées. Et du coup, l'autrice avait la main sur toute la phase en amont et n'avait aucun compte à rendre au magistrat. Et donc c'est une méthode qui a permis de faire des saisies colossales pendant des années, plusieurs tonnes où à chaque fois on voyait évidemment défiler des ministres, voire des présidents de la République qui venaient se flatter de ces saisies très importantes. Et en l'occurrence, la police était au courant dès le départ que ces tonnes allaient arriver. Donc on était sur un système totalement vicié en réalité.
L'actrice est devenue Lofast en 2019, hein, c'est ça? Ça a changé. Est-ce que ça a changé quelque chose et quoi? Si ça a changé quelque chose?
Alors, bon, l'objectif sur le papier, c'était à la fois de renforcer le renseignement criminel, qui est un élément très important en police judiciaire, et également de décloisonner les services d'enquête, là où ça pêchait jusqu'ici un petit peu en matière de stup. Officieusement, c'était évidemment une façon d'en finir avec l'actrice, dont l'image était finalement extrêmement affaiblie, écornée par les scandales successifs. Aujourd'hui, Lofast, en réalité, on n'a pas vraiment assez de recul pour considérer que c'est une bonne chose. En tout cas, sur le papier, ça semble l'être. Il y a un magistrat qui est numéro 2. Et il y a des méthodes qui sont plus encadrées, notamment sur les livraisons surveillées. Néanmoins, on voit aujourd'hui que la culture du chiffre reste malgré tout un moteur important. On voit toujours des quantités saisies très importantes. Et un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait aussi un petit peu des saisies, l'alpha et l'oméga de la lutte antidrogue.
Et est-ce qu'on peut dire, et quoi qu'on pense des méthodes employées, que la lutte antidrogue en France est plutôt efficace?
Alors c'est...
Mais vraiment, là, je suis dans le constat un peu froid, quoi.
Je pense qu'on a des bons services de police judiciaire en France. Après, la seule question, c'est de savoir à quoi on juge et à quoi on jauge l'efficacité de la lutte antidrogue. Et effectivement, il me semble qu'on la juge un peu trop à l'aune des saisies qui sont réalisées. En réalité, on peut faire des saisies très importantes et ne démanteler aucun réseau, interpeller quelques lampistes, et à l'inverse, faire des saisies plus modestes, de quelques dizaines, quelques centaines de kilos, mais démanteler des réseaux tout entiers. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les quartiers, quand on regarde que la consommation n'a jamais été aussi élevée, que les points de deal, malgré les discours ministériels, restent très importants, et que les saisies sont tout aussi nombreuses, j'ai pas le sentiment que la lutte antidrogue soit si efficace que ça, malheureusement.
Vous avez intitulé votre livre « Trafic d'État ». Alors évidemment, c'est une enquête sur les dérives de la lutte antidrogue, c'est les dérives des policiers. La police, c'est l'État. Mais pour que ce soit une affaire d'État, un trafic d'État, il faudrait qu'il y ait vraiment une complicité parmi tous les rouages qui font l'État, et jusqu'au sommet du gouvernement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de trafic d'État dans ces conditions?
Alors c'est une question très intéressante et très importante, puisque en l'occurrence, François Thierry, c'est pas quelqu'un qui s'est enrichi. D'ailleurs, il n'y a pas de preuve à ce stade de corruption, contrairement à Michel Néret, par exemple, il y a quelques années. C'est quelqu'un qui a mis en place une méthode, une stratégie, la stratégie Myrmidon, un dévoiement total, j'en ai parlé. Et cette stratégie, il l'a pas mise en place tout seul dans son coin. Il l'a mise en place avec l'aval des plus hautes autorités policières, mais aussi avec l'aval du ministère de l'Intérieur. C'est pas un hasard si c'était précisément les ministres successifs qui venaient parader devant les ballots de shit ou de coke, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Donc c'est au fond, finalement, l'injonction du politique, c'est-à-dire de faire de plus en plus de chiffres, de plus en plus de saisies, qui pousse aussi les policiers à utiliser ces stratégies et à les laisser dans l'ombre. En l'occurrence, François Thierry, il a fait tout ça en tant que commissaire divisionnaire numéro 1 de l'Office central des stupes, un des plus principaux services de police judiciaire aujourd'hui en France. Donc, à ce titre, pour moi, c'était un trafic d'État.
Toute dernière question, que devient François Thierry?
François Thierry, il a perdu son habilitation d'officier de police judiciaire, donc il ne fait plus d'enquête, mais il est toujours au ministère de l'Intérieur, dans une délégation qui fait de la cybersécurité aux dernières nouvelles.
Bien, merci infiniment Emmanuel Fonsten, je rappelle le titre de votre livre, Trafic d'État donc, et le sous-titre Enquête sur les dérives de la lutte anti-drogue, c'est chez Robert Laffont, et c'était après le premier livre, L'Infiltré. Merci infiniment, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Trafic de drogue, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique, aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.